Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont déclenché l'opération Roaring Lion, Epic Fury contre l'Iran. Frappe conjointe sur Téhéran, mort de Khamenei, riposte iranienne sur 9 pays, fermeture du détroit d'Hormuz. Ce qui était depuis 1979 une obsession idéologique, éradiquer Israël comme condition de légitimité de la République islamique, est-il en train de se solder dans la douleur et le chaos comme une défaite stratégique majeure pour Téhéran ? À bien des égards, l'axe de la résistance semble en ruine. Quoique, alors évidemment, on parle aujourd'hui, alors que ces opérations ont commencé il y a 15 jours, et tous les jours, on a de nouvelles informations qui nous rendent incertains quant à l'avenir de l'opération. La question se pose donc de savoir, alors que la guerre est toujours en cours, que le régime des Mollahs est à ce jour capable de tenir et pendant combien de temps. Mais il s'agit aujourd'hui, avec Michael Prazan, de comprendre comment cette menace s'est construite dans le temps de l'histoire, comment elle s'est nourrie, comment elle s'est diffusée. Alors, Michael est documentariste, essayiste et journaliste. Il travaille depuis 20 ans sur les structures profondes d'une haine d'État, hein, la haine d'Israël par l'Iran. Il a consacré des enquêtes aux frères musulmans, au Hamas. Nous l'avions reçu à Academ il y a un an, à l'occasion de l'apparition de son livre « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles ». Il a travaillé aussi sur les relais idéologiques de l'islamisme en Occident. Avec lui, il s'agit plutôt de comprendre les racines, l'histoire de cette obsession israélienne, anti-israélienne, plutôt de la République islamique d'Iran pour Israël, donc et de voir comment il perçoit la politique de l'État hébreu aujourd'hui face, est-ce qu'il faut encore dire menace, on va en parler. Bonjour Michael, merci beaucoup. D'être bonjour, là avec nous. Donc, il faut peut-être rappeler que jusqu'à la révolution islamique, l'Iran du Shah et Israël entretenaient des relations discrètes mais réelles, des coopérations militaires, des échanges économiques, il y avait des convergences stratégiques. Et en quelques semaines, Khamenei, l'ayatollah Khamenei, fait d'Israël l'ennemi absolu. Alors, je voudrais qu'on vienne sur ce moment de basculement. Est-ce que c'est le produit d'une conviction théologique qui préexistait à la prise du pouvoir, ou l'antisionisme était-il d'abord une décision politique, l'ennemi structurant dont ce régime révolutionnaire a eu en 1979 besoin? Comment ça s'est construit presque avant 1979? Qu'est-ce qui se passe en 1979?
Alors, pour comprendre ce qui se passe en 1979, pour comprendre, comme vous le dites, ce moment, il faut revenir bien en amont. Revenir déjà en 1928, avec la création des Frères musulmans en Égypte par Hassan al-Banna, qui est la volonté de se défaire du colonialisme occidental, en l'occurrence britannique, mais qui est très lié depuis les années 30 au nazisme. Il va d'ailleurs être lui-même un espion au service des nazis pendant la guerre. Et il va financer son groupe terroriste, parce qu'il y a une façade politique et puis une façade qui s'appelle l'appareil secret, qui est en partie financée par le parti nazi. Donc il y a une fusion, il y a une véritable romance entre le nazisme et les frères musulmans. Et pendant la guerre, du moins pendant les premières années de guerre, les nazis vont faire feu de tout bois pour diffuser une idéologie extrêmement antisémite, extrêmement violente dans le monde arabe, via deux pôles de diffusion, qui sont deux pays qui sont restés neutres pendant la guerre, qui sont d'une part l'Égypte et d'autre part l'Iran. Et ils ont dans ces deux pays des médias qui vont vraiment abreuver durant ces années la population de discours complotistes, antisémites, très virulents. Et ils ont des écoles techniques. On remarquera que la première génération et même la deuxième des frères musulmans sont pour beaucoup des ingénieurs ou des ingénieurs agronomes qui sont passés par ces écoles techniques, et c'est à peu près la même chose en Iran. Alors vous me direz, l'Iran est chiite et l'Égypte est sunnite. Et donc il y a un hiatus religieux, un schisme entre ces deux chapelles de l'islam. Alors, comment tout ça se solidifie dans une forme de symbiose? Eh bien, ça date des années 50. En 1953, a lieu à Jérusalem, encore sous domination jordanienne, la seconde conférence internationale islamique qui est organisée par les frères musulmans et en premier lieu par la grande figure intellectuelle des frères musulmans à cette époque qui est Sayyid Qutb. Et Sayyid Qutb veut s'ouvrir à d'autres formes de l'islam, d'autres chapelles de l'islam. Et à cet égard, il va inviter un personnage qui s'appelle Nawab Safawi, qui est iranien, qui est un jeune clerc extrêmement charismatique, qui a créé un groupe terroriste en Iran, qui a assassiné d'ailleurs des dirigeants politiques iraniens, et qui partage peu ou prou, voire exactement, la même idéologie, les mêmes buts que les frères musulmans. Et donc il va être invité à cette conférence pour tenir un discours. Nawab Safawi lui-même a pris, je veux dire, a rencontré à l'époque, au milieu des années 40, Khomeini à Qom, avec lequel il est devenu très ami. Et lors de cette conférence, Nawab Safawi va faire tout son discours sur la question israélienne. À l'époque, les frères musulmans ont évidemment une hostilité très grande à l'écart du foyer juif d'abord et puis ensuite d'Israël. Les frères musulmans ont organisé des pogroms dans les quartiers juifs du Caire. Mais ils ne savent pas très bien quel discours adopter contre la création de cet État. Et, alors, ils ont versé des contingents armés en 48, dans la première guerre israélo-arabe. Ils se sont fait décimer parce qu'ils n'étaient pas du tout bien préparés au combat. Mais enfin, ils ne savent pas très bien comment orienter ce discours. Et Nawab Safawi va leur donner la clé. Il va dire, la question d'Israël, la question du sionisme, n'est pas une question de voisinage, que ce soit avec l'Égypte ou avec la Jordanie ou même le Liban. C'est une question islamique parce que toute la Palestine est un waqf, c'est-à-dire un bien sacré de l'islam. Donc la terre est sacrée, la terre est islamique. C'est une définition totalement performative. Et à cet égard, ça ne concerne pas tel ou tel pays, telle ou telle population, ça concerne l'intégralité de l'Oumma, c'est-à-dire tous les musulmans dans le monde, et c'est une question islamique. Et ça, ça va être une révélation pour les frères musulmans qui vont, l'année suivante, réinviter Nawab Safawi à venir tenir deux conférences au Caire, qui vont être interdites par les services de sécurité du roi, mais les frères musulmans vont trouver le moyen quand même qu'elles se tiennent dans leurs propres locaux. Et à partir de là, il va y avoir une fusion entre les deux organisations, les fédayines de l'islam de Nawab Safawi d'une part, les frères musulmans égyptiens d'autre part, à telle enseigne que lorsque Safawi rentre en Iran, il va changer le nom de son organisation qui va s'appeler Ahwan al-Muslimin, ce qui en perse veut dire les frères musulmans. Il va tenter une dernière fois d'assassiner le premier ministre du Shah. Il va être arrêté et puis exécuté en 1956. Sauf que, évidemment, Safawi est mort, mais ses partisans lui survivent. Et ils vont se chercher un nouveau leader. Et ils vont aller voir Khomeini, à qui ils vont d'ailleurs apporter les écrits de Saïd Qutb, qui vont avoir un impact extraordinaire sur Khomeini, à telle enseigne d'ailleurs que le premier traducteur des œuvres de Saïd Qutb, c'est feu l'ayatollah Khamenei, qui est déjà très lié à Khomeini lui-même. Et Khomeini, lorsqu'il prend le pouvoir, il va prendre deux décisions symboliques pour montrer qu'il reprend le flambeau de Safawi et des frères musulmans, qui est d'une part de transformer l'ambassade d'Israël en ambassade de Palestine, aidée en cela par la garde rapprochée de Arafat, qui lui fournit une protection lors de la révolution. Et ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas dans le contexte iranien. Il va faire imprimer un timbre postal à l'effigie de Saïd Qutb dès sa prise du pouvoir. Donc c'est un hommage rendu aux frères musulmans, sunnites, égyptiens, et d'une certaine manière, il revendique la continuité de la pensée des frères musulmans, leurs objectifs, qui est aussi la destruction de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, il y a des éléments dans ses discours à l'époque qui sont des clins d'œil adressés à l'idéologie et à la rhétorique de Saïd Qutb. Je pense d'ailleurs à un discours donné lors d'une interview à Neuf-le-Château, donc avant de rentrer en Iran, par Khomeini.
Là, il faut rappeler les circonstances.
Oui, alors voilà, peut-être on ne s'en souvient pas, mais Valéry Giscard d'Estaing accueille très gentiment l'ayatollah Khomeini en France, où il va passer quelques mois à Neuf-le-Château, avant de rentrer en libérateur en Iran. Et Saïd Qutb, l'un des concepts forgés par Saïd Qutb, c'est jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance pré-islamique. Et finalement, pour contourner, disons, les progrès occidentaux derrière lesquels le monde arabe est totalement à décrocher, disons, il va inverser le principe. Il va dire, voilà, l'Occident, en fait, c'est la régression, c'est le retour à l'ignorance pré-islamique et le véritable progrès, c'est l'islam. Et dans le discours télévisé que va donner Khomeini à Neuf-le-Château, il va avoir cette phrase « Nous allons réparer les ruines laissées par le Shah ». Autrement dit, tous les progrès apportés en Iran sont considérés comme des ruines et le véritable progrès que nous allons apporter, c'est le règne de l'islam. Donc il y a véritablement, on a tendance à croire que c'est le clergé chiite qui prend le pouvoir en Iran avec l'avènement de l'ayatollah Khomeini. Non, c'est en réalité l'avènement du frérisme, l'avènement de l'idéologie des frères musulmans qui prend le pouvoir. Et c'est pour ça aussi que Khomeini va s'emparer évidemment de la question palestinienne pour devenir au fond le leader du monde musulman au sens le plus large, c'est-à-dire qui rassemblera aussi bien les chiites que les sunnites.
Alors, s'emparer de la question palestinienne, c'est une chose. La question, c'est de voir comment ça acquiert ce statut de centralité absolue, presque immédiatement, première chose. Et deuxième chose, vous décrivez tout ça comme un mouvement qui a lieu dans un espace, on pourrait dire, de discussion idéologique entre intellectuels, du clergé, un petit groupe de personnes qui discutent entre eux pour pouvoir asseoir leur, comment dire, leur doctrine, on pourrait dire. Et la question, c'est de voir comment ça va se répandre, ou pas d'ailleurs, dans une société iranienne à l'époque, qui a un rapport extrêmement... comment dire, clivé à cette question juive et à cette question israélienne. Je pense à un livre qui vient de sortir sur anti-lumière et lumière en Iran. On voit bien que les juifs ont une place, participent à la vie politique. On peut se souvenir, vous avez rappelé du lien avec le nazisme et il y a eu des réfugiés juifs en Iran pendant la guerre qui venaient de Pologne par centaines. Hein. Je pense au livre Les Enfants de Téhéran, par exemple, à ce propos. Enfin, donc, quelque chose, quand même, doit se passer dans un pays qui ne ressemble pas à l'Égypte à ce moment-là.
Oui, effectivement, l'Iran n'est pas fondamentalement antisémite, en tout cas dans toutes les franges de la société. Mais n'oublions pas que Khomeini prend le pouvoir en partenariat avec les communistes, du moins dans un premier temps, avant qu'il se fasse embastillé, exécuté, et qu'il y a, disons, une convergence de vues, d'une certaine manière, sur le colonialisme, l'impérialisme, tout ce qui vient d'Occident, etc. Donc il y a, à ce moment-là, un socle assez large qui va soutenir Khomeini et qui va adopter les motifs du discours anti-sioniste, anti-israélien. Et à partir de là, Khomeini prend le pouvoir et... qui peut dire, au fond, enfin je veux dire, ça fait quand même 47 ans désormais qu'ils sont au pouvoir, donc il y a une diffusion de l'idéologie qui va, par capillarité, se répandre dans la société, mais dont on voit aujourd'hui qu'elle n'est plus, en tout cas, ou qu'elle n'est pas nécessairement majoritaire. Donc voilà, il y a aussi, comment dire, une forme de cynisme qui va permettre... à travers différents relais tout au long de cette histoire-là, de gagner un certain nombre de soutiens, y compris en Occident et jusqu'à aujourd'hui.
Justement, sur cette question-là, en 1979, il y a une partie de la gauche française qui a salué la révolution islamique comme une révolution tiers-mondiste progressive. Comment ça s'explique, comment vous le concevez, et on pourrait dire qu'il y a d'ailleurs des rémanences de ce moment de réception par une partie de la gauche à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle est au courant du fond de doctrinal de ce que vous venez de nous rappeler ou pas? Il y a quelque chose comme une sorte de malentendu qui sert à tout le monde. Comment vous voyez cette conjonction à l'époque, C'est une partie de la gauche. Attention, c'est une partie de la gauche. C'est pas toute la gauche, bien sûr.
On pourrait croire qu'il y a une méprise. En réalité, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a, pour le coup, et le mot est discutable, mais en l'occurrence, il est assez vrai, il y a, pour le coup, une convergence des luttes. C'est-à-dire qu'on a face... On a l'alliance de deux idéologies révolutionnaires et on a des points de jonction entre ces deux idéologies. Voilà, l'antisémitisme en est un, mais ce n'est pas le seul. Il y a évidemment l'antisionisme, peu importe comment on l'appelle, mais il y a aussi une forme d'anti-impérialisme, de détestation ou de rejet de l'Occident et de toutes les idées qui ont été importées depuis l'Occident, que ce soit le féminisme, la démocratie, etc. Donc il y a une alliance qu'on pourrait penser de circonstances, mais qui, à mon avis, va plus loin que ça. Il s'agit dans les deux cas, comme je l'ai dit, à travers des idées anti-occidentales, anti-impérialistes, anti-coloniales. C'est une région qui a été quand même colonisée, et pas seulement par l'Occident, mais aussi par le pouvoir ottoman. Donc il y a un mouvement, en tout cas il y a un discours de libération que partagent ces deux mouvements qu'on pourrait penser antagonistes. Et puis il y a, comme je l'ai dit, une forme de pulsion révolutionnaire à l'origine de tout ça et la volonté de se séparer radicalement des influences occidentales. Donc il y a cette alliance qui va durer très peu en réalité, le temps de la révolution en Iran, mais qui va, à travers les soubresauts des époques qui vont se succéder, réunir ces idéologies. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est un peu la logique circonstancielle qui prédomine dans ces alliances-là, qu'on pourrait penser, encore une fois, contre nature.
Alors, on a parlé de l'Iran. Je voudrais avoir votre avis sur la manière avec laquelle presque depuis 1979 et jusqu'à aujourd'hui, alors évidemment c'est colossal, hein, il s'agit d'avoir votre point de vue depuis la synthèse que vous venez de faire, comment Israël a réagi face à cette à ce qui est d'abord un discours et ce qui va devenir une menace concrète avec le déploiement notamment du programme nucléaire, etc., et le financement de proxys de plus en plus actifs. Comment penser l'histoire de la réaction d'Israël face à cette réalité de l'Iran post-1979?
Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour en parler, mais il me semble quand même qu'Israël comprend la menace très rapidement. Déjà parce que les discours tenus depuis l'Iran sont incendiaires et c'est un pays qu'on a toute raison de prendre au sérieux, d'autant que ces discours seront réactivés incessamment.
On a l'impression que ce n'est pas pris au sérieux au niveau de la diplomatie mondiale et que ce n'est pas vraiment...
Alors il y a deux choses, il y a la diplomatie mondiale et puis il y a Israël. Et Israël, je pense, a quand même une perception plus précise de ce que représente ce régime dès le début, d'autant plus que... Il y a un certain nombre de juifs égyptiens qui ont émigré en Israël, qui vont occuper des postes à très haute responsabilité. L'un d'entre eux, d'ailleurs, va devenir le chef des armées quelques décennies plus tard. Et eux savent très bien à quoi on a affaire. Et donc, il va y avoir quand même une vigilance extrême à l'égard de l'Iran jusqu'au moment où intervient le programme nucléaire iranien, où là, la menace devient existentielle et ça va être une obsession d'Israël que d'observer ce qui se passe et de vouloir enrayer ce programme. C'est des décennies de surveillance et d'infiltration au sein de la société iranienne pour pouvoir au mieux retarder la possibilité de l'arme nucléaire aux mains de la République islamique et, dans le pire des cas, trouver les moyens d'abattre ce régime. Et on en est là aujourd'hui.
On en est là aujourd'hui. Nous sommes à la mi-mars. Comme je le rappelais tout à l'heure, les événements ne cessent d'évoluer. C'est peut-être la dernière question que je peux vous poser après ce tableau historique que vous nous avez fait. Comment vous voyez... à la fois la politique militaire actuelle d'Israël depuis le 28 février, et qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous envisagez, comment vous semble que les semaines qui viennent vont nous apporter?
Pour dire les choses très franchement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'Israël n'avait pas le choix. Israël a profité, déjà de la présidence de Trump, pour trouver cette petite brèche dans laquelle s'infiltrer et essayer d'en finir avec la République islamique. Bon, je pense que les destructions sont considérables en Iran. Est-ce que ça suffira à faire ressortir la population? Parce que c'est la clé, en réalité, la clé d'un renversement de la République islamique, c'est la population iranienne en tant que telle. Et effectivement, après ce qui s'est passé au mois de février, les deux jours au cours desquels il y a eu, dit-on, en gros 35 000 morts, ce qui est faramineux, la population a toute raison d'avoir peur de ressortir dans la rue, d'autant qu'elle est désarmée. Donc, est-ce qu'Israël a un plan justement pour permettre à la population de relayer la guerre en cours et de renverser réellement le régime? J'espère le croire, l'avenir le dira. Toujours est-il que Israël, à mon avis, commet aussi peut-être, pour ce qui est du Hezbollah, pour ce qui est du Hamas, je n'ai pas envie de dire naïveté parce qu'ils ne le sont pas, mais le problème, si vous voulez, c'est toujours la même chose. On peut défaire les combattants, on peut défaire un leadership, on peut défaire même le potentiel humain d'une organisation terroriste, mais l'idéologie qui les structure et qui les fonde, elle est beaucoup plus difficile à défaire. Et donc le pari d'Israël est un pari risqué, mais peut-être un pari gagnant, qui est que, en renversant la source de cette idéologie revendiquée très clairement par la République islamique, en permettant à la région de faire en sorte qu'un souffle de paix puisse régner, et donc de faire la paix avec le Liban, avec ses voisins. Quand même, Israël a fait la paix avec certains de ses voisins, mais enfin, c'est une paix glaciale, hein, surtout avec l'Égypte. En faisant souffler un air un peu plus doux sur la région, à terme, on pourrait imaginer que ces idéologies régressent. C'est un pari. J'espère que Israël le remportera, parce qu'à ce moment-là, ça changerait la configuration même de la région et du monde. Et lorsque certains parlent de la chute du régime comme d'un nouveau mur de Berlin qui s'effondre, je crois que c'est la réalité. Mais là, il est sans doute trop tôt pour le dire.
Merci beaucoup, Michael. Merci.
Merci à vous.